Donc bienvenue pour cette rencontre. Alors c'est vrai qu'on suit un petit peu le Notre Père. Donc au début c'était à proposition de contemplation, de se placer devant Dieu, avec Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Ensuite, une prière de demande de nourriture, donne-nous notre pain, donc pour nourrir notre être. Alors la troisième question, c'est celle du pardon, avec le « pardonne-nous » comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, c'est une question, donc la prière de repentance avec le « pardonne-nous », puis celle du pardon aussi, nous, est-ce que nous arrivons à pardonner? Alors, c'est toujours une question que j'aborde seulement avec grande prudence, parce que, si vous voyez, s'il n'y a rien de plus injuste que de dire à quelqu'un « il faut pardonner », c'est-à-dire faire du pardon de l'autre un devoir moral, parce que, si vous voulez, c'est épouvantable. Quelqu'un qui, par exemple, s'est fait massacrer son enfant, bon, déjà, c'est une blessure, je dirais, effectivement, qu'il gardera à vie, bien sûr. En plus, on va lui dire, il faut pardonner. Donc, par-dessus, on y rajoute une deuxième couche de souffrance en disant... Bonsoir, Norberto. Il faut prendre une petite feuille sur la chaise, peut-être. Une deuxième couche de souffrance, de culpabilité, de... Voilà, en disant, vous n'arrivez pas à pardonner. Donc, en plus... d'être blessé, vous êtes un salaud et vous méritez pas le pardon de Dieu parce que vous-même, vous n'arrivez pas à pardonner. Donc c'est vraiment, ça je veux dire, avec ce genre de discours, on peut être subventionné par l'Union des psychanalystes peut-être. Parce que ça crée effectivement des névroses épouvantables en fait. C'était absolument terrible de placer les gens sous cette chape de culpabilité. Donc c'est particulièrement injuste et cruel.
Justement, je relisais sur le mandat la politique de réconciliation nationale. Oui. Donc il faut obliger les tueurs à demander pardon et les victimes à pardonner. Mais le but n'est pas moral. Le but c'est de les réinstaller comme voisins.
Oui, alors est-ce que c'est la bonne stratégie de forcer les coupables de demander pardon et aux victimes de pardonner? C'est pas évident.
Il y a des coupables qui refusent de reconnaître leur tort. Enfin,
oui, parce que...
Oui, donc...
Oui, alors après, c'est des questions, effectivement, de concrètes. Là, je me plaçais plus sur le plan, si vous voulez, de savoir comment réconcilier des peuples qui se sont déchirés après des événements terribles comme ça. Ça, c'est des questions qui se posent. Oui. Mais ce que je voyais surtout, c'était la question, si vous voulez, de... La question intérieure, la question intime, la question du cœur, la question de la psychologie personnelle, la question de ce qui va pouvoir aussi produire dans la vie concrète avec nos proches, après avec des populations entières, c'est plus compliqué, comment est-ce que ça peut marcher? Alors on peut remarquer d'abord, c'est que si vous voyez, le vocabulaire du pardon, en particulier dans la Bible, est assez riche. Ici, je vous ai choisi donc un passage donc de la Genèse, avec Joseph qui pardonne à ses frères. Le mot là, pardon, c'est nassa, c'est le verbe lever, élever, porter. C'est un des mots, un des concepts pour le pardon. Et on le voit dans l'histoire, il est question d'arriver à transformer le mal en bien. Et donc il y a quelque chose, on pourrait dire, qui est de l'ordre presque d'une résurrection qui est espérée, qui est ouverte, qui est à l'œuvre, qui est faite par Dieu. Il y a aussi un autre mot qu'on connaît, c'est le Kippour, hein, le Yom Kippour, le jour du pardon. Donc ça, kapar ou chose comme ça, c'est recouvrir. Donc c'est plutôt l'idée peut-être d'expiation, de choses comme ça. Alors c'est une possibilité aussi. Il y a salar qui veut dire amnistier, et puis il y a mara qui veut dire nettoyer, purifier. Enfin, donc c'est une question qui est assez riche, assez complexe. C'est pas simplement la question de l'amnistie. Les gens s'imaginent le pardon, c'est simplement amnistier, de dire en fait on compte plus la faute. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que il y a une question, finalement l'amnistie c'est une question de... Une question d'honneur presque, une question de bon point, de mauvais point, une question de... Alors Dieu est tout à fait au-dessus de cette comptabilité, si vous voulez, bien sûr. Dieu n'est pas du tout dans cette comptabilité, et on le voit ici, il a cherché à récupérer, à sauver, à visiter Il n'y a pas question de culpabilité, il n'y a pas non plus question de... il n'y a pas question de réparation, de punition pour pouvoir racheter les bons points, les machins comme ça. On est complètement dans un autre registre ici, et en Jésus-Christ complètement aussi, si vous voulez. La question, c'est une question de relation d'abord avec l'autre, hein, avec son frère. Et la question, c'est que quand on fait du mal, ben, ça fait du mal, donc il y a de la souffrance, il y a de la mort, il y a des conséquences néfastes. Et donc la question de réparer ça, on va voir dans ce texte comment est-ce que ça peut marcher. Alors, le Notre Père, c'est très délicat, pardonne-nous comme nous pardonnons. On peut se dire, ben voilà, que si on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Ben ça ne marche pas comme ça, bien sûr. Hein? Dieu n'est pas, l'amour de Dieu n'est pas à la remorque ou limité par notre capacité, nous, à aimer, heureusement. C'est l'inverse, jusqu'à un nouvel ordre. Ce que nous montre le Christ, c'est qu'au contraire, l'amour de Dieu est infini, puis que nous, on essaye d'aimer un peu, et Dieu essaye de nous faire aimer un peu. Donc ça marche quand même dans ce sens-là. Alors qu'est-ce que raconte Jésus avec son « pardonne-nous comme nous pardonnons » Alors moi, dans cette prière, je le comprends qu'on demande l'un comme l'autre, si vous voulez. On demande à Dieu de nous pardonner, et c'est la prière de repentance, elle est utile, parce que pour progresser, il faut reconnaître qu'on a besoin de progresser. Ça aide, si vous voulez. Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas travailler par ailleurs pour essayer de nous faire avancer, mais si on s'ouvre à une dynamique d'évolution, de progression, de croissance, ben ça aide quand même, bien sûr. C'est même, c'est quand même grandement, grandement bloquant quand on dit ben non, je ne veux pas progresser, je ne veux pas avancer, j'ai aucune espérance ou je suis désespéré de pouvoir progresser. Ben, ça n'aide pas la progression. Donc, la prière de repentance, c'est d'abord ça. C'est se reconnaître comme ayant besoin de progresser, peut-être reconnaître ses fautes, reconnaître ses faiblesses, voilà, ses défauts, hein, pour travailler dessus et pour laisser travailler Dieu dessus. Il y a là aussi une humilité. Si on se dit « je vais y arriver par mes propres forces, par ma sagesse, par ma méditation », bon, on peut faire des progrès comme ça, mais je pense que c'est sage et c'est utile de compter sur le Créateur pour nous aider à avancer. C'est une position d'humilité peut-être aussi qui est saine, si vous voulez. Voilà, de ne pas se dire « je suis comme... je peux me sauver moi-même ». C'est quand même un peu, c'est vrai, mais ça a des limites. Donc, compter sur Dieu dans la repentance, c'est une bonne piste. Il ne s'agit pas de s'humilier, dire comme si il fallait, comme on va le voir dans ce texte, se transformer en esclave de Dieu, en serpillière. Non, c'est une saine humilité, dire de reconnaître, bah oui, là j'ai des marges de progression, et puis de travailler dessus. J'allais dire Jésus dans la parabole de la brebis perdue, Luc 15, qui me semble fondamentale pour comprendre l'évangile. Il nous dit d'abord... Dieu n'en veut jamais à personne au point de l'abandonner. Non, même la plus perdue des brebis perdues, Dieu va aller la rechercher, même si elle ne se repent pas de se reconnaître comme perdue. Donc, voilà, la repentance n'est pas la condition à l'amour de Dieu. Dieu aime de toute façon, mais on l'aide en participant, en acceptant, en recevant, en accueillant son geste de salut. Bon. Deuxièmement, il dit, dans sa parabole de la brebis perdue, si un berger a 100 brebis et qu'il y en a une qui est perdue. Donc il nous conseille d'avoir à la limite 1% de repentance et puis 99% de chercher ce qui est juste et bon en nous. On ne peut pas se dire « je suis la dernière des merdes, je suis un vermisseau, etc. » Bon, si on s'humilie complètement, ben, on oublie une part importante, tout ce qui est bien en nous et le bien que nous pourrions devenir. Et c'est là-dessus aussi que Dieu veut travailler. Et donc il y a ce travail, je veux dire, de saine humilité, pas d'humilité extrême, une humilité, je dirais, sur peut-être le 1% avec qui, avec l'aide de Dieu, nous pourrons progresser aujourd'hui. Voilà, c'est donc une humilité raisonnable. Alors peut-être qu'on peut travailler sur le plus urgent, le plus critique, en travaillant sur le plus perdu des brebis perdues qu'est en nous ou qu'est dans l'autre. Alors ensuite, pardonne-nous, c'est la repentance. Comme nous pardonnons, c'est le pardon de l'autre. Les deux sont liés parce que si vous voulez, je pense que la question, c'est de sortir d'une logique de la dette, du donnant-donnant. Tu m'as fait ça, je te fais ça, en positif ou en négatif. On n'est plus dans une logique de la dette, on est dans une logique de la grâce. Donc, ce qui est beau, c'est d'effectivement pouvoir faire circuler cette grâce, le don, le pardon, et puis vivre ensemble comme on peut, en avançant, sans condition. Et c'est pour ça que, contrairement à ce qu'on peut lire parfois, il ne faut pas attendre que le coupable s'excuse pour pardonner. Parce que si vous voulez... Donc je parle de quelqu'un qui s'est vraiment fait blesser par quelqu'un d'autre, hein, par un méchant. Non seulement il y a de la souffrance, il y a de la blessure, il y a du sang qui coule, si vous voulez, physiquement, moralement, psychologiquement, que sais-je. Donc non seulement il y a de la souffrance, mais en plus... Bon, la souffrance, elle peut créer de la colère, de l'indignation, de la révolte, de la rancœur, oui. Mais si on devait attendre pour se libérer de cette rancœur, de cette colère, de cette souffrance, de ces vins, que l'autre s'excuse, ben on est prisonnier de la méchanceté du méchant, si vous voulez. Ou prisonnier de la maladie du méchant, parce que ce n'est pas toujours de la méchanceté. On n'est pas méchant pour plaisir, par le plaisir. On est en général... méchant, ça peut être par choix personnel, mais c'est souvent plus un symptôme de quelque chose qui ne va pas chez l'autre. Ce n'est pas pour l'excuser du tout. Hein, c'est... Donc, celui qui est blessé, il faudrait qu'il puisse se libérer de ça, si vous voulez. Et donc, le pardon est une grâce aussi. On peut le demander à Dieu comme une grâce, comme une bénédiction, pour que la blessure subie... Bon, déjà, il y a les conséquences pratiques de la vie à gérer suite à ce mal. Bon, mais en plus, qu'il puisse y avoir dans la façon dont l'autre va vivre ce passé douloureux, ben, qu'il puisse en être libéré de cette colère, de cette rancœur qui le mine, qui le ronge. Oui. Donc, on peut demander l'un comme l'autre. À mon avis, c'est important. Et c'est peut-être ce qu'on va voir ici. Alors, ce qui est curieux, si vous voulez, c'est que, d'accord, comme nous pardonnons, c'est ressortir de cette logique de la dette, mais Jésus ne dit jamais « je te pardonne », en fait. Même aux soldats romains qui sont en train de le crucifier, il ne dit pas « je vous pardonne ». Il dit « non, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc, en fait, il remet ça à Dieu, et c'est Dieu qui pardonne. Et c'est ce qu'on va voir ici aussi. Joseph ne dit pas « je vous pardonne, vous avez été vraiment dégueulasse avec moi, mais bon, je vous pardonne ». Et ça, je pense que ça peut être important aussi, parce que le coupable, il est coupable, donc il est en dette par rapport à la victime. Il lui doit quelque chose qui peut ne pas être remboursable, si vous voulez, comme une vie, comme une souffrance, comme une injure. On ne peut pas la rembobiner dans l'autre sens pour qu'elle n'ait pas eu lieu. Donc, ce n'est pas facile. Donc, il y a une dette du coupable par rapport à la victime. Si la victime dit « je te pardonne », il rajoute une couche à la dette, finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a pas, on ne libère pas l'autre. Et ça, c'est le coup du... Comment s'appelle le traité de Versailles en 18, si vous voulez, non ? On a préparé la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que si on humilie le coupable, on ne l'aide pas, et donc on n'aide pas la situation. Ça, c'est peut-être la question du Rwanda et du je ne sais pas quoi, auquel je ne connais rien, donc j'ai du mal à parler. Ou d'Israël-Palestine, où il y a des torts des deux côtés et de la raison des deux côtés. Donc c'est vraiment une situation inextricable, hein. La question, c'est que le « je te pardonne », c'est quand même quelque chose qui piège quand même un peu, si vous voulez, qui humilie, ou la victime humilie le coupable, encore un peu plus. Donc, attention, c'est pas si simple.
Oh, c'est le pardon d'Auguste qui accumule des charbons ardents, comme disait un de mon prof sur Sina et sur Émilie. Vous voyez comme je suis bon, je vous rends, après voilà. Tout le mal que vous avez voulu faire, je vous rends tout le bien.
Alors oui, alors le problème, c'est que voilà, il faut arriver à faire le bien, c'est-à-dire effectivement travailler à soulever la situation pour que les choses puissent être vivables, être rétablies, etc. Donc maintenant, je vous propose de suivre ce passage de la Genèse qui sert peut-être à illustrer un peu, à réfléchir un petit peu sur cette question du pardon des fautes entre nous, entre humains, et avec le travail de Dieu aussi là-dedans. Alors peut-être faut résumer les épisodes précédents parce que c'est la fin de, c'est les derniers mots de la Genèse. Hein. Depuis le chapitre 37, il y a cette histoire, cette grande saga de Joseph et de ses frères. Donc il y a trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Jacob, donc le troisième patriarche, il a pas mal d'enfants, une douzaine. Joseph est le dernier à ce moment-là. Il y en a peut-être eu un petit dernier, petit Benjamin derrière. Oui. Toujours est-il que Joseph, c'est le chouchou, c'est le préféré de sa maman et de son papa. Du coup, les autres sont jaloux. Alors ils profitent d'une situation. Crac, ils veulent le tuer. Ils disent, bon, finalement, autant le vendre comme esclave. Comme ça, on s'en débarrasse. En plus, on a les sous. Assez finement joué. Donc, il part en esclave en Égypte. Alors, il y a des situations rocambolesques qui font qu'il va devenir premier ministre du Pharaon et va assurer, bon, avec l'aide de Dieu qui lui souffle des bonnes idées, va devenir la clé de la prospérité de l'Égypte. Or, voilà-t-il pas qu'il y a une famine terrible sur toute la région et donc qu'en particulier les fils de Jacob sont en famine et donc vont chercher du grain en Égypte, ils tombent sur le premier ministre qui est le frère, ils ne le savent pas, enfin bref, Joseph en profite pour un peu leur jouer une comédie. Toujours est-il que Joseph les pardonne, leur donne de la nourriture, prend tout le monde en Égypte, tout le monde est très heureux, sauf que finalement, le papa Jacob, il finit quand même par devenir vieux et par mourir, il bénit tout le monde sur son lit de mort et il meurt. Alors, ils vont l'enterrer avec Abraham et Isaac en terre de Canaan, et puis on arrive au moment où Joseph revient finalement en Égypte. S'il revient en Égypte alors qu'il pourrait rester en Canaan, ce serait plutôt ça la justice, ce qui serait bien, c'est qu'il s'est engagé vis-à-vis du Pharaon pour revenir. Donc là, finalement, on est encore dans les conséquences, finalement, de la trahison des frères qui avaient vendu Joseph. Et donc, il est toujours un peu esclave du Pharaon. Et par fidélité à la parole donnée au Pharaon, il doit continuer à le servir et donc à retourner en Égypte. Voilà donc ce qu'arrive. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent « si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Alors, ils firent dire à Joseph, dans l'hébreu il est marqué, alors ils commandèrent à Joseph en fait, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. » Et les frères ajoutent, « Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Jacob pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dire « Nous sommes tes serviteurs, tes esclaves. » Joseph leur dit « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père, et il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm, c'était un fils donc qu'il avait eu, jusqu'à la troisième génération, et les fils de Makir, fils de Manassé, donc Manassé c'est un autre fils, Nakir sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os loin d'ici. » Joseph mourut âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Et puis ensuite, eh bien, on verra dans la suite de l'histoire, dans le livre de l'Exode, Moïse qui prend effectivement la momie, j'allais dire, de Joseph, qui la remonte, et dans le livre de Josué, on voit qu'elle sera enterrée quelque part, un peu n'importe où en Israël, pas dans la grotte de Macpéla, où il y a donc Abraham, Isaac et Jacob, et puis peut-être aussi Adam et Ève, on n'en sait rien. Donc, prenons tranquillement le début. Donc, au début, les frères, est-ce que c'est de la vraie repentance? Bah oui et non. Ils ont quand même percuté qu'ils ont fait le mal. Donc là, il y a de la repentance quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, déjà, c'est une bonne chose de se dire « oui, j'ai fait du mal ». Parce que finalement, ils avaient des bonnes raisons de faire du mal. Enfin, je veux dire qu'eux, quand ils ont vendu leur frère, ils disaient « mais c'est une situation d'injustice terrible, c'est le chouchou, nous on n'a rien ». Donc oui, souvent quand on fait le mal, on se trouve tout un tas d'excuses, tout un tas de bonnes raisons de faire ça, on se justifie à ses propres yeux, et donc peut-être que là, il y a quand même un début de prise de conscience en se disant « oui, on a fait du mal quand même, ce qu'on a fait, c'était pas juste ». Ça, c'est déjà pas mal quand même, si vous voulez. C'est déjà un peu de la repentance. Bon, c'est pas de la repentance devant Dieu, donc, et vis-à-vis de leurs frères, bon, ils sont encore dans la tromperie finalement, parce qu'ils viennent inventer une parole de Jacob, parce qu'ils n'osent pas s'excuser directement, ou alors de dire, voilà, c'est vrai que ce serait juste que Joseph nous massacre ou nous humilie. Souvent, quand on craint de s'excuser devant quelqu'un, c'est parce qu'on a peur que l'autre en profite pour nous humilier. C'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose que peut-être à éviter. Hein. Ça, c'est le syndrome du traité de Versailles encore. Si l'autre vient s'excuser, oui, bon, ben, faut pas en rajouter, si vous voulez, en disant, oui, je t'avais bien dit que, machin truc. Bon, je veux dire, ça suffit largement, quoi. Et finalement, ça, c'est la première attitude de Joseph, c'est qu'il va pas en rajouter. Et quand les autres vont se traiter d'esclaves devant lui au verset 18, il les relève, en fait, si vous voulez. Donc il y a l'idée du pardon comme relever, quoi, comme aller vers le haut, aller de l'avant, aller vers le haut. Et c'est vrai un peu pour le coupable en face de nous, pour la situation, les événements, pour soi-même. Bon, c'est tirer vers le haut tout ça, autant qu'on peut. Et c'est ça, effectivement, qui peut permettre d'avancer quand même. Mais alors eux, c'est finalement, ils pensent surtout à leur situation, en se disant, ben oui, ils pensent à eux, quoi, finalement. Ils pensent pas tellement, à s'excuser, à dire, ben voilà, on t'a fait du mal, machin, non, ils pensent à eux-mêmes. Ce qui n'est pas très sympathique, mais c'est déjà ça, c'est déjà une avancée, il y a déjà du positif, et il faut voir dans ce cas-là le positif. Hein. Le pardon comme relevé, ben c'est ça, c'est voir le positif aussi. Alors heureusement, oui, on peut pardonner sans qu'il y ait une vraie repentance en face, c'est ce que je vous disais, parce que sinon, s'il fallait attendre que l'autre se porte suffisamment bien pour donner une vraie reconnaissance, un vrai mot d'excuse, c'est le serpent qui se mord la queue, on attend que l'autre se porte mieux pour lui pardonner, mais l'autre, pour se porter mieux, il attend qu'on lui ait pardonné aussi, donc c'est pas...
Oui. Une question peut-être, je pense à ce qu'a écrit Jacques Derrida sur pardonner.
Oui, oui.
Est-ce qu'on peut pardonner à celui qui ne demande pas du tout pardon, comme Adolf Hitler par exemple?
Mais moi je trouve, oui, justement. Oui. Il faut justement arriver à s'affranchir de ça. Parce que justement, sortir de la logique de la dette, c'est ça, en fait, à mon avis, que propose le Christ. C'est vrai que c'est pas juste. C'est pas juste. Il faudrait... Logiquement, pour que ce soit juste, il faut attendre que l'autre se soit proprement excusé pour qu'on puisse pardonner. Mais là, justement, on sort de cette logique du donnant-donnant, du machin, c'est la logique de la grâce. Et s'il fallait attendre, si Dieu devait attendre que nous, on sache à faire preuve d'une vraie bonne repentance pour nous pardonner et nous accepter, on pourrait toujours attendre et on serait foutu. Donc je pense qu'au contraire, il faut... Et en particulier pour le cheminement de vie de la victime, il ne faut pas qu'elle attende la repentance de l'autre. Et en particulier, moi, dans le cas des crimes sexuels, moi, les gens que j'ai vus en prison, pour la plupart, Surtout, bon, il y a la moitié, c'est des crimes sexuels, des violeurs d'enfants ou de femmes ou d'hommes parfois. Bref, ceux-là, ils n'ont jamais rien fait. C'était pas eux, c'était une erreur judiciaire, machin. Et alors le premier, on se dit, bah, peut-être que c'est une erreur judiciaire. Quand c'est 90%, on se dit, oui, bon, c'est que quelque part, soit ils se jouent la comédie face à l'aumônier qui vient et puis aux autres, soit ils se jouent la comédie par rapport à eux-mêmes, soit il y a une sorte de maladie mentale qui fait que ce qu'ils ont fait est tellement horrible, même à leurs propres yeux, qu'ils ne peuvent pas le voir et qu'ils sont dans une vie en décalage qui fait qu'ils ne voient absolument plus la réalité. Je ne sais pas.
Ils ne se reconnaissent.
Ils se reconnaissent.
Enfin, ils ne se reconnaissent pas dans l'acte. L'acte est gommé.
L'acte est gommé, ce n'est pas eux, quoi. Et donc, si la victime devait attendre que le mec se porte mieux pour se libérer de cette culpabilité, machin, ben, je veux dire, ce serait quand même dramatique pour la victime. Non, la victime doit se dire, moi, je vais sortir de cette colère par le haut, finalement. Voilà.
Et si la victime est morte, je pense, par exemple, assassinée ou...
Ben oui, c'est ça.
La victime est morte, qui peut pardonner? Personne.
Ben Dieu seul. Alors là, il y a un très beau livre là-dessus. Il y a un très beau livre là-dessus que je vous recommande, s'appelle Fleur de soleil ou je ne sais pas quoi, qui pose la question justement de qui peut pardonner.
Pour soi, l'acte qui a été fait, le mal qu'on en ressent, d'accord, qui a été victime d'une personne de sa famille.
Ben oui, oui.
Elle, comment peut-on pardonner pour elle? De quel droit? On peut pardonner le mal qu'on a ressenti et qu'on en ressent.
Voilà. Mais c'est là qu'effectivement, le « je te pardonne » est quelque chose qui n'est peut-être pas forcément à prononcer d'une manière évidente et qui n'est pas prononcé ici. Il y a marqué « je ne suis pas Dieu pour faire ça ». Et donc ça, c'est une bonne idée. On peut dire bah, « voilà, je demande à Dieu de te pardonner ». Et ça, même si on n'est pas victime, on peut le dire, je pense. Mais de toute façon... mais ça, c'est la question de ce livre de Fleur de Soleil qui pose la question par rapport aux victimes donc, des camps d'extermination et qui retourne la question avec une demi-douzaine ou une douzaine de philosophes qui répondent à cette question dans des courts chapitres. C'est assez bien fait.
C'est donc c'est un ouvrage collectif.
C'est un collectif, oui.
D'accord.
C'est un collectif. Qui est assez bien fait, je crois. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, non, ce bouquin. Je sais pas. C'est un livre, c'est un petit livre. Hein. C'est pas une bricasse terrible. Ça peut être quand même, c'est pas récent. Hein.
Et moi, je me dis justement qu'il y a plus de grandeur dans le.
C'est un peu comme ici, c'est-à-dire qu'on pense en fait à soi-même en espérant arranger sa situation.
Enfin, là, les frères, la première chose qu'ils font, c'est de dire qu'ils ont peur qu'on les prenne en peine. C'est pas grand-chose que vous êtes en train de faire.
Ils ont peur, voilà. Ils ont peur des conséquences. Ouais, bon, en fait, donc ils pensent à eux-mêmes.
On a peur que quelqu'un vous rende même mal, quoi.
Ben oui. Mais donc ils ne s'excusent pas de la souffrance qu'ils ont fait subir à Joseph. Mais là, ils reconnaissent quand même qu'ils ont tort. Dans leur tête et... Quoi ?
Enfin, j'ai pas bien saisi, mais dans un deuxième temps, dans un premier temps, c'est simplement la peur qui les amène à faire...
C'est la peur qu'ils aiment, mais ils reconnaissent quand même qu'ils ont eu tort. Ils ont peur de la vengeance, ils ont peur de cette escalade, de cet enchaînement provoqué par leur méchanceté, mais ils reconnaissent qu'il y a quand même du tort de leur part. Cela dit, ils n'osent pas le dire tout à fait eux-mêmes. Et puis ils savent qu'à ce titre, parce qu'ils sont encore dans une logique de la dette finalement, qu'ils ne méritent plus rien de la part de Joseph. Et donc ils présentent ça dans la bouche de leur père. Ils ne se présentent pas comme « mais on était frères ». Ils disent « vu de la part de notre père, nous sommes des frères ». Et donc, ou « vu de la part de Dieu, nous sommes tous serviteurs de Dieu ». Et donc ils savent qu'ils ne méritent rien de la part de Joseph. C'est déjà un peu une reconnaissance, mais du coup ils cherchent plus haut, ce qui est assez intelligent parce que c'est vrai en fait. Et quand on dit « aime ton prochain » quand Jésus dit ça, le prochain c'est pas celui qui nous est sympathique, c'est pas celui qui nous est proche, c'est pas celui dont on se sentirait proche ou dont on voudrait s'approcher par compassion. Le prochain dans l'hébreu, c'est celui qui a le même berger que nous, en fait. Étymologiquement, c'est roé, c'est celui qui a c'est le berger. Et donc le prochain, c'est celui qui a le même berger que nous. Donc c'est dans cette logique qu'il se place en disant, c'est à ce titre-là. C'est faites-le pas pour nous de nous pardonner, mais parce qu'il y a un seul Dieu et qu'on est aussi ses enfants et que donc vu de la part de Dieu, bah, il veut que ses enfants s'entendent bien. Vu de la part du Père, il a envie que ses enfants soient une vraie famille. Et donc, voilà.
Le même berger unique pour tous ou le oui. berger de...
Bah,
est-ce qu'Israël et Ismaël ont le même berger ?
Eh oui.
Ah oui.
Eh oui. Parce que c'est le... Bah oui, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul Dieu.
Voilà.
Il n'y a qu'un seul Dieu.
Est-ce que c'est une faute vis-à-vis de Dieu ? Il n'y a que Dieu qui peut nous juger. Si on ne peut pas pardonner, qu'est-ce qui se passe ? On ne peut pas. La faute est, vous êtes trop touché par ce qu'on vous a fait. Vous ne pouvez pas. Dieu, quelle est son attitude là ?
Ben, il comprend, il nous pardonne de ne pas pouvoir pardonner.
Ah.
Ben, bien sûr. Hein. Voilà. Ben oui, voilà. Parce que si vous voulez. Eh oui, ben oui, bien sûr.
Ça devient compliqué.
Ben bien sûr. Bien sûr. Oui,
c'est sûr.
Mais si, c'est sûr. Hein.
C'est...
Mais oui,
on est tranquille.
Mais oui,
si Marc le dit, c'est sûr.
Ben c'est sûr, parce que.
C'est rassurant.
Je me pose la question.
Non, 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 mais c'est sûr. C'est ce que dit Jésus tout au long. Il dit que Dieu aime son ennemi, qu'il va chercher. Dieu est comme un berger qui va chercher même la plus perdue des brebis perdues. Et qu'il la retrouve en plus. Il ne nous dit pas.
Oui, oui.
Si, il la retrouve. Il dit, il la retrouve.
Parce que pardonner, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Pour quelque chose de grave.
Ben oui, puis on
moi,
fait.
Je me verrais très mal pardonner. Quelque chose de grave, hein, je veux dire.
Ben oui, puis on fait. Non, puis on fait comme on peut.
C'est simple.
On fait comme on peut. Mais par contre, on peut demander à Dieu, ben, viens libérer cette colère qui est en moi et que cette blessure vive ben, puisse cicatriser. Ça ne veut pas dire forcément oublier, bien que l'oubli peut être une bonne solution aussi, si vous voulez. Mais ça ne veut pas forcément dire oublier, ça veut dire que ça devienne vivable. Et donc ça, ça peut se demander dans la repentance et aussi confier notre besoin de savoir pardonner, notre besoin de calmer notre cœur, d'avoir une paix intérieure. On peut confier l'un comme l'autre à Dieu.
Pour Joseph, c'est plus facile de pardonner parce qu'il a le rapport de force maintenant. Donc on ne peut pas recommencer. Pour un rescapé à des collines du Rwanda, le type à la machette, il est de nouveau là avec sa machette. Tu peux recommencer demain, il y a des chances que ça arrive d'ailleurs. En plus, c'est bien parti pour recommencer. Donc, comment pardonner en disant si je pardonne, ça va recommencer.
Oui, non, mais ça, c'est un peu une question.
Parce que là, le rapport de force est de nouveau en faveur des gens qui ont déjà fait leur preuve.
Oui, mais si vous voulez pardonner, c'est se dire bon, on avance sur le passé. Et donc, il n'y a plus cette négation de l'autre comme digne d'exister et d'avancer. Donc ça, c'est ennuyeux de toute façon. Et donc, pardonner, ça ne veut pas forcément dire du tout, on fait comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas la question. C'est savoir comment lever la situation, l'élever la situation pour rendre les choses vivables. Et c'est bien un peu ce qui est en cause ici. C'est-à-dire que malgré tout, vous dites, il a la situation facile parce que, ben non, il retourne en Égypte, il est toujours esclave en Égypte, prisonnier du Pharaon, comme conséquence, ben en fait, de la trahison de ses frères. Donc non, Il y a toujours ce problème en cours. Voilà.
Il est évité qu'on nous fasse plus de mal ou qu'on en a fait alors à ce moment-là, peut-être.
Alors, dans l'avenir, bon, il va leur dire, voilà, je vais vous nourrir, en fait. Hein. Il leur promet d'abord que Dieu les visitera. Les visiter, c'est un des deux mots pour l'aide de Dieu. Donc, il y a soit se souvenir, soit visiter. C'est un des deux mots pour dire la providence de Dieu pour le coupable en particulier, ou pour ceux qui se mettent dans le pétrin.
À éviter que ces coupables, comme certains régicides d'une révolution que vous allez reconnaître, se fait douer, d'éviter qu'on confisque toutes ses propriétés à sa famille, qui soit dans la misère, alors que les lords que le Parlement avait fait exécuter n'avaient pas perdu tous les leurs, alors finalement qu'il y ait quand même une certaine proportion dans les réparations. Vous voyez de quelle époque je veux dire.
Mais alors ça, c'est un bon...
C'est trop l'histoire moderne, non?
Ça, c'est de la gestion, c'est autre chose, oui. C'est de la justice humaine, comment rendre justice. Mais ça, la justice humaine, elle est souvent justement dans l'idée de la punition de la faute, des réparations de la faute. Elle est souvent là-dedans. Et l'Évangile nous appelle à être au-dessus de ces comptabilités-là, au-dessus de l'histoire du donnant-donnant. Donc là, si vous voulez, quand on regarde au verset 17, il y a le haut pardonne à tes frères, le crime de tes frères. Le haut, en fait, c'est Anna, c'est toujours un mot de la supplication en général qui est adressé à Dieu pour lui demander sa grâce et son pardon. Donc là, il est mis dans la bouche de Jacob pour s'adresser à Joseph. C'est assez curieux parce que normalement, c'est qu'à Dieu qu'on dit ça. « Oh, pardonne. » Bon. Ensuite, « pardonne à tes frères le crime et leur péché. » Le crime, c'est finalement la trahison, ce qui crée du mal. Et le péché, c'est plus l'offense, vous voyez. Mais eux, après, quand ils demandent pardon, « pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Donc ils ont oublié. En fait, ce n'est pas tellement le péché, c'est le crime là auquel ils demandent le pardon, je pense. Hein. Exactement, parce qu'on regarde l'hébreu à gauche, en fait, c'est ce qui est marqué, c'est la révolte. Vous voyez, c'est le même mot que la révolte. Ils ont traduit la révolte de tes frères et leur péché. Donc c'est mal traduit. Et puis il y a une sorte de petit cul de lampe qui est avant le mot révolte. C'est en fait « pardonne en ce qui concerne le crime des serviteurs de Dieu ». Donc il s'intéresse aux conséquences des fautes, en fait. Ils reconnaissent que pour ce qui est de l'offense, c'est irréparable, si vous voulez, que ça n'appartient qu'à Dieu, finalement. Mais ce qu'ils demandent à Joseph, c'est d'essayer de travailler sur les conséquences, finalement, de la tromperie, du mal qu'il leur a fait, qu'ils ont fait subir à Joseph. Donc je crois que ça, c'est effectivement assez sage. Et d'ailleurs, c'est finalement ce que va répondre Joseph au verset 19. « Je ne suis pas, suis-je à la place de Dieu ?» En fait, la réponse, c'est une question rhétorique, la réponse est non. Seul Dieu peut punir le péché, c'est-à-dire peut dire la dignité radicale de toute personne. Voilà, même coupable, même mauvaise, même pécheresse. Et ça, c'est important. Ça n'empêche qu'il faut travailler sur les conséquences du mal. Et ça, on peut le faire ensemble. Et c'est important. Alors Joseph, il va pleurer en entendant ces paroles. C'est vrai que c'est curieux, ce Joseph, il pleure souvent dans cette histoire. Il pleure jamais suite au mal qu'on lui fait, les horreurs qu'il doit subir, la prison, les machins. Mais il pleure toujours, là c'est un peu de joie de retrouver des frères finalement. Et ça c'est quand même touchant, c'est le sentiment qu'il emporte. Et je trouve que par rapport à ce que vous disiez, mais comment on peut faire pour se forcer à pardonner Mais là ça lui vient de son fond propre, si vous voulez. Il décide pas, c'est plus fort que lui, ces pleurs qui montent en fait. Et ça c'est intéressant, c'est pour ça qu'il faut peut-être le demander dans la prière. C'est que c'est finalement c'est son être, vous voyez, qui est saisi aux tripes par la situation de ses frères. Et donc ça montre bien qu'on ne peut pas se forcer.
C'est difficile.
Ben, c'est difficile. Et donc, on ne peut pas nous demander quelque chose d'impossible. Il faut que ça vienne de notre fond.
Quoi ? Ça lui est donné, la force.
Ça lui est donné, voilà.
C'est donné, on ne peut pas se forcer.
Et c'est un peu ce qu'il dit, Dieu l'a changé en bien. Ce que vous aviez médité en mal, Dieu l'a changé en bien. Et donc, il le dit pour la situation matérielle, peut-être. Mais il le dit aussi pour ce qu'il a à l'intérieur de lui-même. C'est que tout d'un coup, il y a ces larmes qui lui sont venues, bah, de bonheur, de retrouver des frères, dans un sens. Et donc ça, ça montre que c'est plus fort que lui, et ça ne vient pas simplement de sa propre décision. Et je trouve que ça, c'est beau, de nous mettre ça là, et en même temps, nous, ça nous libère, en disant, ben, on fait comme on peut. Voilà. Alors ses frères, ils viennent à ce moment-là se prosterner devant lui, un peu comme devant un dieu finalement, et lui dire « Nous sommes tes serviteurs », comme il se disait avant « serviteurs de Dieu ». Et Joseph dit « Suis-je à la place de Dieu ?» La réponse c'est non, mais en fait c'est un peu oui quand même. Parce que l'attitude des frères, c'est comme devant un dieu. Le mot « Oh, pardonne le crime à tes frères », c'est ce qu'on dit à Dieu d'habitude. Et puis « Le soyez sans crainte », c'est ce que dit Dieu aussi, en fait, très souvent dans la Bible. N'ayez pas peur, Jésus le dit souvent, il y a l'ange qui le dit à Marie, c'est un grand classique, si vous voulez, de l'attitude de Dieu face aux croyants, hein, qui se sent tout petit devant son Dieu. Et puis ensuite, ce que vous aviez médité de me faire en mal, Dieu l'a changé en bien, c'est ce qu'il est en train de faire aussi, en fait. Ce qui a été fait en mal, il est en train de le transformer en bien par cette force du pardon et puis par ce qu'il va mettre en place et qu'on va voir. Et puis, soyez sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, donc le Dieu qui vient nourrir, qui vient machin, qui vient entourer, qui vient héberger. Ça aussi, c'est typique en fait de Dieu. Hein. Et puis, il les consola. Ça aussi, normalement, c'est Dieu qui console. Parce que si vous voulez... Le mot « consoler », là, donc c'est le verset 21, c'est un mot qui est assez fort, hein, qu'on connaît bien à travers Noé, par exemple. Hein. Noé, ça veut dire « celui qui console son peuple », ou on le connaît à travers Ésaïe, ce fameux « consoler son peuple hein. ». Donc c'est « naham », le verbe « consoler », ça veut dire, ça peut être « consoler » au point de vue de l'humeur, hein, au point de vue de la... passer du désespoir à l'espérance, de la tristesse à la joie, du deuil peut-être à une vie qui reprend pied. Mais c'est aussi la conversion, en fait, consoler. C'est-à-dire, c'est voir les choses avec un autre point de vue, et avec un point de vue, enfin, qui est le point de vue que Dieu aurait sur ce, la réalité, sur ce qui arrive. Et donc, c'est important, ce mot. Il les consola, c'est-à-dire qu'avec son attitude, il provoque peut-être un nouveau regard sur la réalité de ses frères. Un nouveau regard sur les relations possibles aussi. Donc c'est un travail qui est fait de conversion de l'autre, conversion du coupable. Et c'est bien ce que je vous dis, si on devait attendre que le coupable ait déjà ce nouveau regard pour lui pardonner, et ben, le problème c'est qu'il a besoin... que la victime, peut-être, ou que Dieu, sans doute, l'aide à changer son regard. Et là, c'est un travail de Dieu, et c'est un travail peut-être de nous avec Dieu.
Oui. Est-ce que ce n'est pas aussi parfois la victime qui a changé son angle de vue pour se vivre, pas seulement comme victime, mais comme être vivant ?
Et oui.
Hein, comme n'étant pas seulement celui ou celle qui a été blessé, mais aussi quelqu'un qui est passé par là.
Tout ça ne peut se faire qu'avec l'aide de Dieu aussi.
Exactement.
Ça aide. Je crois.
Oui, donc effectivement, il se sort de ça parce qu'il se place déjà comme bienfaiteur dans un sens.
Oui.
Donc comme source de bien possible et pas simplement comme quelqu'un d'écrasé. Voilà. Non, ça c'est vrai que c'est une très bonne remarque. Qui vient peut-être de Dieu, là, voilà, comme je vous dis, dans il pleura, c'est tout d'un coup, là, il y a, à la limite, il y a la conversion peut-être de Joseph. Mais déjà, il avait, dans un certain sens, pardonné, finalement, parce que déjà, au chapitre 45, donc 5 chapitres avant, ben déjà, il a, et il reconnaît ses frères, il leur tombe dans les bras, il leur dit « Mais venez ici, je vais vous aider avec ma situation favorable. » Et puis, là, il est assez fort parce qu'il dit « Dieu l'a changé en bien, finalement, pour accomplir. » Donc, presque, Donc, il dit quand même « Vous aviez médité en mal, donc il y avait une mauvaise intention. » Mais finalement, les conséquences, elles ne sont pas si graves que ça, finalement. Alors c'est vrai que c'est bien de pouvoir le dire si c'est le cas, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Comme vous disiez, quand il y a quelqu'un qui est mort, il est mort de chez mort. Et donc, c'est irrécupérable. Et on ne peut pas dire le mal que vous aviez combiné, Dieu l'a transformé en bien. Le type qui est mort, et on ne peut pas... il sera mort de chez mort, voilà. Donc ce n'est pas récupérable. Donc là, bon, c'est de la chance, si on peut dire ça, que la situation s'est arrangée, ce n'est pas toujours le cas. Alors ça pose la question au verset 20 de la providence de Dieu. On pourrait dire, voilà, Dieu avait tout prévu d'avance, il avait prévu la trahison des frères. En même temps, ils sont coupables de leur trahison, mais en même temps, c'est Dieu qui l'avait combiné pour sauver Israël de la famine. Oui, non, là, ce n'est pas très sérieux, si vous voulez, et ce n'est pas ce que dit le texte. Si Dieu était si puissant que ça, il n'avait qu'à faire pleuvoir que sur Israël et qu'il n'y ait pas de sécheresse sur Israël et qu'il y en ait ailleurs. Il aurait pu se débrouiller autrement, si vous voulez. Mais c'est plutôt l'idée que Dieu, il accompagne son peuple, même dans les horreurs que l'on fait, même dans les turpitudes, nos bêtises, nos orgueils. Et puis qu'il va essayer d'en tirer le meilleur, quoi, finalement, et d'élever la situation. Et puis de faire feu de tout bois, en toute occasion, même à travers le mal, eh bien d'en sortir un plus grand bien. Et ça, c'est le propre de la résurrection du Christ. Dieu ne voulait certainement pas que son fils soit exécuté, trahi, pendu à une croix. Mais tant qu'à faire que ce soit arrivé, eh bien, il le transforme en quelque chose de positif, et du coup, dans une relecture de ce qui arrive à ce pauvre Jésus, eh bien, on peut le relire comme une preuve ultime d'amour, de don de soi, qui sert de signe de l'amour de Dieu, qui est prêt à tout donner, même pour des coupables, même pour des gens qui n'arrivent pas à pardonner, même à demander pardon. Et donc, finalement, de ce mal qu'est l'exécution du Messie, du Christ, Dieu sort un encore plus grand bien. Et la résurrection nous parle on parlerait aujourd'hui de résilience ou de je ne sais pas quoi, mais même des horreurs qui nous sont arrivées, ce n'est pas pour les justifier, mais il y a une façon de les vivre pour les transformer en un plus grand bien. Alors bien sûr, si on s'est fait massacrer son enfant, c'est irrécupérable de ce point de vue-là. Mais par contre, peut-être qu'on peut du coup avoir une compassion, un intérêt à la vie, une attitude qui va nous bonifier. Vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'à faire qu'une horreur soit arrivée, que dans un autre domaine, point de vue, de cette horreur puisse jaillir quelque chose comme un plus grand bien. Bon, cela dit, je dis ça parce qu'on sait que c'est possible parfois. Ensuite, ce n'est pas du « il faut que ce soit possible », comme vous dites, on fait ce qu'on peut, et que de toute façon, nous sommes comme un arbre, ça pousse lentement, et voilà, c'est tout ça, c'est un processus de guérison, un processus de résurrection. Il le consola, parlant à leur cœur. Alors il va rester, Joseph demeura en Égypte. Bon, ça c'est bon, il est coincé, mais c'est pas bon, quoi. Normalement, il fallait pas demeurer en Égypte. La promesse qui a été faite donc à Jacob, c'est tu peux descendre en Égypte parce que ça va être un bon chemin de salut. Mais c'est bon de descendre en Égypte, mais il faut vite remonter en fait. Il faut pas s'y installer. L'Égypte, ça symbolise le travail, l'industrie humaine, la sagesse humaine, la solidarité humaine, c'est un moyen utile pour avancer, mais ce n'est pas seulement ça qui fait la vie éternelle, ce n'est pas ça qui éternise la vie, ce n'est pas ça qui donne une dignité à la vie, si vous voulez. Donc c'est bien de passer par là, il ne faut pas s'installer là-dedans, c'est comme s'installer dans du matériel pur, dans du matérialisme pur, dans de l'humanitaire pur. Symboliquement, ce n'est pas très bon. Il est coincé, en fait. Mais quand même, avec l'idée, là, je vais mourir, donc il sait bien que, si vous voulez, le salut n'est pas dans le fait de s'installer comme ça dans le matériel. Et il dit... À terme, il faudra ramener mes os au bon endroit. Bien sûr, c'est pas l'espérance d'avoir la vie éternelle en mettant les os à gauche ou en mettant les os à droite. C'est plus une logique, j'allais dire, égyptienne qu'une logique hébraïque. Mais je crois que c'est l'idée, voilà, de placer son espérance en Dieu en se disant, ben voilà, Dieu va nous en sortir. Et au-delà du visible, au-delà du... Voilà, il y a cette espérance en Dieu et donc... Parce qu'il aurait pu dire, bon, ben maintenant que je suis mort, allez vite m'enterrer comme j'ai fait pour Jacob, et puis vous revenez en Égypte pour continuer à faire vos affaires ici. Non. Il dit, je ne partirai pas sans vous, finalement, de cette situation. Et pour bien dire, l'avenir n'est pas ici, l'avenir est dans une dimension, dans la promesse de Dieu, finalement, hein, dans la promesse et dans la fidélité à cette foi d'Abraham, Isaac et Jacob. Et donc, j'y vois d'abord ça, mais j'y vois aussi, si vous voulez, qu'il dit à ses frères, bah, écoutez, rendez-moi ce service et promettez-moi ça. Et donc, quelque part, il ouvre là une remise de dette au moins symbolique à ses frères, parce qu'il leur dit, vous pouvez faire quelque chose pour moi, et donc, je ne suis pas simplement le grand généreux qui donne à vous qui êtes des vermisseaux. Mais il dit, moi aussi j'ai besoin de vous, et donc du coup il recrée de la place à chacun, finalement une dignité visible à chacun, et il dit que même lui, grand au point de vue matériel, eh bien il est petit à ce niveau là c'est qu'il a besoin de ses frères pour leur promettre ça. Et ça, je crois que c'est intéressant. Et puis les frères le feront effectivement, mais rien ne les obligeait à le faire, parce que là, une fois que Joseph est mort, ils n'avaient plus rien à craindre de Joseph. Et puis, il n'est plus là pour vérifier qu'ils allaient suivre leurs promesses. Donc, ils auraient pu dire, bon, écoutez, on a promis ça à Joseph, ça nous a bien arrangé, mais maintenant, bon, qu'il se débrouille, tout mort qu'il est. Ben non, quand même, et par... voilà. Et donc là, je crois qu'il y a quelque chose aussi qui est important, peut-être, c'est quand l'autre est coupable par rapport à nous, eh bien, même si ce n'est pas nous qui le demandons pour être dans une logique du donnant-donnant, mais il faut montrer que même le « je te pardonne », là, il n'est pas prononcé, vous voyez. C'est Dieu qui pardonne. C'est à Dieu de pardonner le péché, c'est une question de Dieu, et il pardonne. Bon. Mais nous, à travers nos actes, peut-être, de soin de l'autre, de montrer que la porte n'est pas fermée et qu'on est soucieux de son avenir, de son devenir, mais aussi... laisser l'autre nous apporter quelque chose pour montrer bah, que pour nous, il est important et il est aussi, dans un sens, divin pour nous, c'est-à-dire capable de nous apporter quelque chose de décisif pour notre cheminement, donc rétablir l'autre dans sa dignité, quoi, finalement. Et c'est peut-être ça qui garantit la paix entre nous, je ne sais pas, ou c'est peut-être là qu'est le vrai pardon, c'est pas dans le « je te pardonne » qui est un peu facile.
Et les frères de Joseph, j'ai l'impression que pour eux, le fait de ramener les os, ils se libèrent d'une dette. Parce que c'est lourd, une dette.
C'est lourd, hein? Oui.
En fait, il va jusqu'au bout à leur permettre de se libérer d'une dette.
Et même dans la promesse, déjà, il soulage Joseph, et puis voilà. Ensuite, quand il l'embaume, ils font beaucoup plus que garder ses os.
Oui.
Ils vont au-delà de la promesse, dans un sens. Donc, oui, ça les libère, je pense. Ça les libère, ça les restaure dans leur dignité, dans leur humanité, je pense. Et ça, dans le processus du pardon, pas simplement l'amnistie, mais, voyez, mais soulever la situation, l'élever, comme il nous est demandé ici, ben, il y a quelque chose qui est assez fort quand même là-dedans. Alors ensuite, c'est pas du il faut, c'est on fait comme on peut, hein, encore une fois. Hein, c'est pas sur le plan moral, c'est sur le plan comment est-ce qu'on peut s'en sortir quand ça se passe au mieux.
On a intérêt, nous.
Ben, on a intérêt parce qu'on est tous sur la même barque. C'est un peu ça aussi que vient dire l'histoire de... Jacob nous considère comme ses enfants, Dieu nous considère comme ses serviteurs, on est tous voilà, dans la même barque, et si on peut avancer ensemble, c'est pas plus mal, oui.
Moi, quand on l'envoie, pourquoi ce ne sont pas ses fils qui l'envoient peut-être ? Moi, j'ai lu ça comme s'il était pris en charge par sa famille, descendance, et juste s'il n'y avait pas, c'est par sa famille collatérale.
Mais parce qu'il l'a demandé aux frères, comme un, justement, c'était pas obligé, il a demandé aux frères comme un service pour les restaurer peut-être dans leur dignité, que ça soit, qu'ils puissent faire quelque chose pour lui, voilà. Et je trouve que ça, c'est une assez bonne idée, vous voyez.
Il a été jusqu'au bout du pardon.
Il a été jusqu'au bout de ce pardon.
Il permet la restauration.
Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des remarques avant qu'on se sépare pour... Oui, allez-y, oui.
Le Nouveau Testament,
allez-y, oui.
Un autre Joseph qui va en Égypte à un moment donné.
Ah voilà. Donc Joseph, Joseph, ça veut dire celui qui ajoute en fait.
Ah bon. Il y a le Nouveau Testament, Joseph.
Non, mais surtout c'est le Joseph, c'est le voilà, c'est le père de Jésus ou le père adoptif de Jésus en tout cas, hein, qui effectivement. Va re-suivre un peu cet itinéraire, eh bien avec Marie, va protéger Jésus de méchants en allant en Égypte et en revenant ensuite. Alors, les pères de l'Église ont remarqué très rapidement que l'histoire de Joseph et de Jésus sont extrêmement parallèles, si vous voulez. Trahi par ses frères, signe de l'amour de Dieu, de ce Dieu qui ressuscite le coupable... il y a tout un tas de parallèles, si vous voulez, qui est très beau à faire, effectivement, entre Joseph et Jésus. Alors, est-ce que Jésus accomplit, effectivement, l'histoire de Joseph, ou Joseph est une promesse de ce que Jésus va vivre, ou est-ce que l'histoire de Jésus a été aussi écrite comme un commentaire, comme un midrash de l'histoire de Joseph ? C'est un peu tout cela en même temps, si vous voulez. Si ce n'est que, et dans l'histoire de Joseph, et dans la vie même de Jésus de Nazareth, vient se dire quelque chose de ce que c'est que, fondamentalement, vivre peut-être voilà, cette grâce de Dieu qui est ouverture à cette dynamique de résurrection qu'est Dieu, dans le pardon, dans la repentance, dans le changement de regard, hein, dans la consolation, c'est-à-dire le changement de regard pour avoir un regard plus vrai quoi, sur les enjeux. Voilà.
Ce livre Fleur de Soleil, vous avez un peu plus pour qu'on puisse le trouver, c'est un lieu plutôt,
Je vais demander, j'ai un ami qui est pas mal de renseignements sur beaucoup de choses.
C'est Google.
Mais c'est Google, mon ami, qui sait pas mal de choses surtout. Non, mais je trouverai ça, sinon je mettrai sur le site, d'accord, avec l'étude biblique d'aujourd'hui. Mais je chercherai. Hein. C'est peut-être pas exactement ça, le titre, pour que je recherche. Hein. Je vous rechercherai ça, que je l'ai dans ma bibliothèque, de toute façon. Donc je le mettrai. Donc on se retrouve, si vous le voulez, si vous pouvez, donc, mercredi prochain, avec le dernier chapitre de cette histoire. Donc le sujet, j'ai oublié le petit sujet, mais il doit être marqué quelque part. C'est l'appel au secours de Dieu, je pense, hein, avec Délivre-nous du mal. C'est l'appel au secours. Alors, vous pourrez trouver sur le site, c'est pareil. Le psaume 142, hein, merci beaucoup. Délivre-nous du mal, donc l'appel au secours de Dieu. Voilà. Donc, bon retour à vous et à tout bientôt.